RTL, 18h.
RTL Soir,
18h, 20h, Christophe Ondelatte.
Bonsoir tout le monde, à la veille de la confrontation entre Tristan Bannon et DSK, nous recevons ce soir la maman de Tristan, Madame Anne Mansouret. Bonsoir Madame.
Bonsoir Christophe Ondelatte.
A tout à l'heure, le journal, Christelle Rebière.
Bonsoir.
À la une, le budget 2012, il faut rassurer les marchés sans désespérer les Français. C'est l'idée, le déficit sera ramené à 4,5% du PIB. Nous verrons comment et si les nouvelles mesures seront suffisantes pour l'avenir.
Il faut décidément se méfier des anxiolytiques et autres antidépresseurs. Une étude française craint qu'ils ne favorisent l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Dans RTL Soir, un procureur convoqué chez un juge et en plus un proche du pouvoir. Il s'agit de Philippe Courroy à propos de la violation du secret des sources des journalistes dans l'affaire Bettencourt. L'étudiant retrouvé mort dans la Deule à Lille s'est tout simplement noyé, mais les enquêteurs ne veulent pas en rester là. La bourse de Paris a perdu 0,92% à 2 996 points. Les investisseurs attendent le vote demain de l'Allemagne sur le renforcement du Fonds de secours européen pour aider les pays endettés. Le quintet à Lisieux, il fallait jouer le 5, le 7, le 15, le 16 et le 3.
Bientôt chez vous, un nouveau compteur électrique qualifié d'intelligent. Pas tant que ça, nous dira tout à l'heure Grégory Carré de Que Choisir qui sera en direct avec nous. Vous retrouverez Serge Julie à 6h25, Laurent Gérard à 7h10 et bien sûr la bande dont refait le monde à partir de 7h15. La météo réjouissante de notre héros de la semaine, Louis Baudin. Bonsoir.
Bonsoir Christophe.
Et ça continue.
Ah oui, ça continue. On ne change rien demain. Même journée avec un temps sec et ensoleillé partout. Quelques brouillards le matin, vite dissipés du côté de l'Aquitaine ou encore dans le nord-est. Et puis des températures toujours estivales. L'après-midi, 26 à 31 degrés, quelle que soit la région, y compris en Bretagne, où on était jusqu'à 28 cet après-midi.
Oui, canicule hein, dans le nord du Finistère, vous me confirmez. Brignogan, il fait toujours d'ailleurs 29 degrés, presque autant qu'à Montauban, record de France, Montauban, 32 degrés. Et même en haute montagne, on peine à trouver de l'air frais. Marcel Leménissier est guide à la compagnie de Saint-Gervais.
Fait quoi, allez, 18 degrés quoi, à 3200 mètres d'altitude quoi. On prend beaucoup de plaisir à pratiquer la montagne, donc les ascensions de différents sommets à cette période parce que justement le climat s'y prête bien quoi. C'est une des plus belle période pour le Mont Blanc. On a un panorama très dégagé en plus, ce qu'on peut voir de très 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 loin. On voit le Viseau qui est à des centaines de kilomètres d'ici, avec des couchers de soleil et des levées de soleil extraordinaires le matin en ce moment.
Christophe Ondelatte, Christelle Rebière.
RTL Soir.
Le dernier budget du quinquennat Sarkozy a donc été présenté aujourd'hui. C'est un budget qui est placé évidemment sous le signe de la quadrature du cercle.
Il faut rassurer les marchés sans désespérer les Français, maîtriser les dépenses sans étouffer le budget des ménages. L'objectif de réduction des déficits sera tenu à l'euro près, a souligné le chef de l'État en Conseil des ministres. Le déficit doit être ramené à 4,5% du PIB l'an prochain et à la fameuse barre des 3%, pourtant chère à Nicolas Sarkozy en 2013 seulement, autrement dit après la présidentielle. Cette année, pour la première fois, le poids de la dette représente le premier poste budgétaire devant celui de l'éducation nationale. Il est donc indispensable de maîtriser la dérive des dépenses publiques. Bénédicte Tassard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes à Bercy pour RTL. Comment le gouvernement compte-t-il s'y prendre ?
Eh bien, l'État va se serrer la ceinture avec un élément clé. Maîtriser les dépenses de personnel.
Oui, les moyens chefs d'RTL prouvent leur grande efficacité sur ce coup-là. Bon téléphone, Bénédicte, vous prenez un téléphone, ça, vous composez le numéro du studio et on se rappelle.
Voilà. Et on fera le point avec un économiste quand on aura eu Bénédicte qui nous aura expliqué tout ce qu'il y a dans le budget.
Un procureur convoqué chez un juge. C'est assez rare pour être souligné, c'est la dernière réplique du séisme de l'affaire Bettencourt.
Le procureur de Nanterre, Philippe Courroy, et son adjointe pourraient être mis en examen pour avoir violé les sources d'un journaliste du quotidien Le Monde. Et ce n'est pas fini. Le directeur général de la police nationale, Frédéric Pechenard, et le directeur central du renseignement intérieur, Bernard Squarcini, seront convoqués, eux, vers la mi-octobre. Encore une affaire qui cause des dégâts chez les proches du chef de l'État. Jusqu'où peut-elle aller, Jean-Alphonse Richard ?
Eh bien, jusqu'à la démission des intéressés ou à leur mutation dès lors que ces mises en examen seront effectives. Ce serait alors un tremblement de terre. Les trois personnes que vous venez de citer étant des éléments de poids dans l'appareil judiciaire et policier. Philippe Courroy, tout d'abord, il dirige le deuxième parquet de France, Nanterre. Les avocats du journal Le Monde l'accusent d'avoir organisé la surveillance téléphonique de trois journalistes du quotidien. Tout ça dans le but de savoir qui les rend renseigné dans l'affaire Bettencourt. Vérification illégale, on le sait, le secret des sources est en effet protégé par la loi. Quasiment les mêmes accusations pour le patron de la police nationale, Frédéric Pechnard, et celui du contre-espionnage, Bernard Squarcini, soupçonné aussi d'avoir voulu identifier la taupe qui renseigne la presse et utiliser pour cela les relevés téléphoniques de l'un des journalistes du Monde. Difficile donc pour ces trois hommes de rester à leur poste avec une mise en examen, sauf que nous n'en sommes pas là. Il dément avoir commis un acte illégal. Philippe Courroie dénonce d'ores et déjà, je cite, une mise en cause calomnieuse. Quant à Frédéric Pechnard et Bernard Squarcini, ils font savoir qu'ils sont prêts à s'expliquer dans le détail devant la juge Sylvia Zimmermann. Rendez-vous fin octobre.
Merci Jean-Alphonse Richard. Le procès des époux Tibéri à peine commencé est déjà renvoyé. Une question prioritaire de constitutionnalité va être étudiée par la Cour de cassation. Et compte tenu des délais, puis ensuite de l'élection présidentielle, le procès en appel des faux électeurs de la mairie du 5e arrondissement de Paris ne devrait pas se tenir avant le deuxième semestre 2012.
Et si les tranquillisants et les somnifères augmentaient le risque de maladie d'Alzheimer ? C'est en tout cas la conclusion d'une étude française qui est révélée par le magazine Science et Avenir.
Une étude qui fait froid dans le dos, sachant que 120 millions de boîtes d'anxiolytiques sont vendues chaque année en France. Nous consommons 5 à 10 fois plus de ce type de médicaments que nos voisins européens. Et d'après cette étude, Anne Le Hénaff, de 15 à 30 000 cas d'Alzheimer seraient ainsi attribuables à ces traitements chaque année.
Oui, alors il faut rester très prudent à ce stade car le lien lui-même n'est pas prouvé, mais proportionnellement, les gens qui consomment trop de benzodiazépines ont plus de risques de développer une maladie d'Alzheimer. Le professeur Bernard Bégaud, pharmacologue à l'Université de Bordeaux.
Il y a une suspicion. Cette suspicion n'est pas absolument démontrée, loin de là, mais elle est quand même assez forte dans la mesure où il y a 6 études, dont une que nous menons, qui vont dans le même sens. Dès lors qu'il y a ne serait-ce qu'un soupçon, et là on est à mon avis plus fort que le soupçon, il faut réagir.
Il demande aux autorités sanitaires de s'emparer du problème, d'examiner ces études et de rappeler par exemple aux médecins les bons usages, que ces médecins en prescrivent trop, il ne faut toutefois pas affoler les patients.
C'est pas parce qu'on en a consommé un tout petit peu que l'on risque de développer une maladie d'Alzheimer. Ça vise des sujets qui en consomment de façon très prolongée, c'est-à-dire plusieurs années, et de façon continue.
Et en France, 30% des personnes âgées prennent des tranquillisants ou des somnifères.
La question est de savoir s'il vaut mieux mourir de la maladie d'Alzheimer ou souffrir de dépression toute sa vie. Après la pub, la malédiction de la Dole. Il est 6h09 dans RTL Soir. On en revient au budget de la France pour l'année prochaine, tel qu'il a été présenté ce matin au Conseil des ministres. En déficit de 4,5%, dernière étape avant le retour à l'équilibre, au déficit conventionnel de 3%, tel qu'il est promis par Nicolas Sarkozy. Mais pour 2013, c'est-à-dire après l'élection présidentielle, Bénédicte Tassard, vous êtes donc à Bercy pour RTL. Comment est-ce que le gouvernement compte s'y prendre pour que nous soyons à 4,5% seulement de déficit l'année prochaine ?
Eh bien, l'État va se serrer la ceinture avec un élément clé, maîtriser les dépenses de personnel. 30 400 départs à la retraite ne seront pas remplacés dans la fonction publique d'État. Au total, sur les 5 ans de la présidence Sarkozy, ce sont 150 000 postes supprimés. Chaque ministère doit également économiser 10% de son budget sur 3 ans. Chaque ministère, sauf celui de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est préservé. Traitement de faveur aussi. Pour la justice qui va embaucher, budget en hausse enfin pour la défense, pour financer par exemple l'intervention en Libye. Des économies seront également réclamées aux collectivités locales et c'est sur ce point que le gouvernement s'attend à des frictions, des débats animés au Sénat qui, je vous le rappelle, vient de basculer à gauche.
Et du côté des taxes, Bénédicte, des taxes qui vont nous concerner, à quoi faut-il s'attendre ?
Taxes sur les plus riches, taxes sur les sodas, taxes sur les chambres de bonne, taxes sur les industries polluantes et puis rabotage des niches fiscales de 10%. Les avantages fiscaux seront donc moindres. Mais le gouvernement tient à faire passer le message. Il a visé davantage les riches et les grandes entreprises que les particuliers.
Bénédicte Tassard en direct de Bercy pour RTL. Le déficit sera tenu à l'euro près, disait Nicolas Sarkozy en Conseil des ministres. Pas si sûr compte tenu de la croissance. Son estimation à 1,75% en 2012 est trop optimiste. C'est ce que pense Éric Heyer, économiste à l'OFCE.
Ça serait faisable en temps normal, mais dans un contexte de restrictions budgétaires massives, comme c'est le cas à la fois en France et également dans les autres pays européens, ce scénario-là me semble très peu probable. créer un scénario plus proche de 1%, apparaît plus probable. Et d'ailleurs, les derniers chiffres qui ont été confirmés aujourd'hui par l'INSEE nous indiquent qu'au deuxième trimestre, la croissance est nulle. Et les chiffres du troisième trimestre anticipés par la Banque de France ou par l'INSEE nous indiquent également une croissance proche de zéro. Donc le scénario d'une reprise à 1,75 a un petit peu du plomb dans l'aile. Mais si le gouvernement en prend acte tout de suite, il faudra qu'il, dans la foulée, il annonce un nouveau plan de rigueur. Et ça, c'est sans doute la dernière chose que le gouvernement a envie de faire à l'heure actuelle. S'ils disent maintenant c'est plus 1,75, c'est 1, il va falloir trouver 15 milliards, etc. etc. Et donc du coup, ils ne s'en sortent plus, quoi.
Voilà, Éric Ayer, économiste à l'OFCE, interrogé par Camille Cronier.
À noter ce soir, enfin ou plutôt ce matin, puisque ça se passe à Washington, la déclaration de Barack Obama, dont il faut signaler pour le contexte qu'il est en campagne électorale et que c'est sans doute un discours adressé à l'intérieur de son pays. Les pays européens, vient de dire Barack Obama, n'ont pas fait suffisamment d'efforts pour remédier aux faiblesses de leur secteur financier.
Un nouveau membre au gouvernement, Édouard Courtial, député UMP de l'Oise, devient secrétaire d'État chargé des Français de l'étranger à la place de David Douillet. C'est un proche de l'ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux.
Y a-t-il une malédiction de la deule ou s'agit-il d'un acte criminel ? Pour la quatrième fois en un an, le corps d'un jeune homme a donc été découvert dans ce canal, la Deule, à Lille.
Cet étudiant franco-britannique de près de 20 ans avait disparu la semaine dernière après une soirée arrosée entre amis. Un scénario identique semble se reproduire à chaque fois. Franck Hanson, bonsoir.
Bonsoir.
Les enquêteurs n'ont pas trouvé de traces suspectes sur le jeune homme. Il est mort noyé, mais pour autant, il se refuse à classer l'affaire.
Oui, et les services de police judiciaire et du parquet de Lille ont déployé d'importants moyens sur cette affaire. Il s'agit d'abord de retracer le parcours de ce jeune étudiant, Lloyd Andrieux. Jeudi dernier, la nuit de sa disparition, il avait écumé les bars du quartier des Halles. D'après l'autopsie, aucune trace d'agression n'a donc été décelée. Il avait consommé beaucoup d'alcool. Le taux relevé est de 1,81 g par litre de sang. Et pour autant, le procureur Frédéric Fèvre veut rester prudent et surtout ne pas sombrer dans la psychose après les autres drames dans la Deule.
Il ne faut pas forcément faire un lien entre ces différentes affaires. Pour les trois premiers faits, aucun élément ne permet de penser qu'il s'agit de faits de nature criminelle. Ici, on remet tout à plat, on repart à zéro sur ces nouveaux faits. Aucune piste n'est écartée. Nous cherchons tout simplement à comprendre ce qui s'est passé, car il y a encore des zones d'ombre et il va falloir réussir à les éclairer.
Les enquêteurs recherchent notamment une personne qui aurait appelé les proches de la victime dans la nuit de jeudi à vendredi avec son portable en précisant que ce garçon ne se sentait pas bien. En attendant, les patrouilles de police sont renforcées sur les abords du canal lillois avec des contrôles sur la consommation d'alcool. La préfecture du Nord organise aussi une réunion vendredi avec la mairie et plusieurs services sur la sécurisation autour de ce cours d'eau qui devient maudit.
Franck Hanson à Lille pour RTL. À l'étranger, une révolution à Cuba. Le gouvernement vient d'autoriser l'achat et la vente de véhicules dans le cadre des réformes économiques. C'était interdit depuis un demi-siècle. On ne pouvait pas s'acheter une voiture. Raúl Castro est décidément infidèle à Fidel, son frère.
Un indigné à New York ou la chronique d'un best-seller.
Indignez-vous, l'essai de Stéphane Hessel a déjà été vendu à 3 millions d'exemplaires dans le monde, traduit en 30 langues. À l'occasion de sa sortie aux États-Unis, l'ancien diplomate de bientôt 94 ans a été accueilli un peu comme une rockstar à la Maison française de l'Université de Columbia, Rémi Sulmont.
Ils sont venus voir le phénomène, le vieux sage français qui écrit des best-sellers.
Je veux savoir pourquoi les Français ont acheté 2 millions d'exemplaires. Parce que les idées qui s'y trouvent sont émouvantes peut-être.
Devant l'amphi, on fait asseoir Stéphane Hessel en complet veston, mais il se relève et commence la conférence debout. Dans un anglais précis d'ambassadeur, le même qu'il utilisa en 48 en venant à New York rédiger la Déclaration universelle des droits de l'homme. En faisant rire, un tacle contre Sarkozy, une pique contre Obama. Dans ce monde dominé par les lobbies, les espoirs d'Obama ne se sont pas matérialisés, dit-il. Sans donner de solution, Stéphane Hessel devise sur la marche du monde.
Je me sens responsable, c'est affreux. Comme j'ai survécu à des choses où j'aurais dû mourir, je me dis que maintenant, il faut que ma vie serve à quelque chose. Mais je ne résiste pas au désir de communiquer un message stimulant.
De fait,
j'avais l'impression d'être dans la présence de quelqu'un comme Nelson Mandela. J'ai un coup d'énergie, ça m'inspire de m'engager moi-même.
Il faut quand même se reposer.
Le nouveau gourou des étudiants de Columbia,
on y va,
aura 94 ans le mois prochain.
Thank you.
Thank you. Rémi Sulmont, le correspondant d'RTL aux États-Unis. Merci Christelle Rebière, il est 6h16. On est avec Anne Mansouret ce soir, la maman de Tristan Manon.
Christophe Ondelatte.
RTL Soir, 18h-20h.
Christophe Ondelatte.
Madame Mansouret, vous êtes la mère de Tristan Bannon et évidemment on va parler de l'affaire DSK tout à l'heure et j'ai envie de dire probablement uniquement de tout ça. En attendant, il se trouve que vous êtes une femme politique, vous êtes vice-présidente de la région Haute-Normandie, vous êtes conseillère générale de l'Eure, socialiste, et vous avez confessé avoir pensé un temps à vous présenter à la primaire. Comme ce soir il y a débat entre les 6 candidats, je voudrais savoir comment est-ce que vous vivez cette campagne.
Écoutez, je la vis comme tous les Français, avec beaucoup d'intérêt. J'ai le sentiment que on commence à se passionner pour cette compétition. Et j'ai vu tout à l'heure que mon candidat, si je puis dire, Arnaud Montebourg, avait pris des points. Donc je suis ravie.
Il l'est passé. Alors il passe un coup devant Ségolène Royal, un coup il reste derrière dans le dernier sondage. Mais il prend 5 points.
Non, c'est Manuel Valls qui a pris 5 points. Lui, il en a pris un peu moins. Mais enfin, il est autour de 10%, donc ça va.
Cette affaire qui vous est tombée dessus au mois de juillet dernier ne vous a pas éloigné de la politique?
Ça m'a pas éloigné de la politique. Cela dit, très sincèrement, si j'avais pu m'en passer, ce serait mieux. Je serais très heureuse d'être l'objet de l'attention de tous les médias pour une autre raison que celle qui m'amène ici ce soir. Très sincèrement, je préférerais avoir à m'exprimer en matière politique que dans un fait divers qui a quand même eu des aspects extrêmement lourds à porter pour ma famille et pour ma fille en particulier.
On reparle tout ça tout à l'heure avec vous, Madame Mansour. Et on parle maintenant d'un sujet qui semble comme ça un petit peu anecdotique parce qu'il est très pratique. Il s'agit de votre compteur EDF. C'est officiel depuis ce matin, décision gouvernementale. Il va être changé, sera remplacé partout, donc chez vous forcément, par un compteur jaune fluo dit intelligent et baptisé Linky intelligent parce qu'il va transmettre votre consommation à distance et au fur et à mesure et qu'il affichera aussi votre consommation pour votre propre usage. Ça ne vous coûtera rien, nous dit-on. Mais ça va quand même coûter à EDF et à sa filiale ERDF 4 milliards 300 millions d'euros. Or, sachez que cette décision est contestée par les associations de consommateurs et notamment Que Choisir. On veut comprendre pourquoi. Grégory Carré, le directeur des études de Que Choisir, est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Où est le problème, monsieur Carré? Voilà un compteur qui va nous permettre, un, de payer notre consommation réelle au lieu de payer une consommation supposée. Deux, de mieux maîtriser notre consommation. Tout va bien?
Oui, alors pour le premier point, d'accord, certes, c'est une avancée. Pour le second point, malheureusement, la maîtrise de la consommation énergétique, c'est un peu la grande oubliée de toute cette expérimentation. Il faut savoir que le déploiement suit toute une phase d'expérimentation et malheureusement, l'expérimentation n'a pas permis de constater des baisses de factures sur les consommateurs à qui on a imposé justement toute cette expérimentation.
Pour que ce soit clair, Linky affiche ce qu'on a consommé le jour même, ce qu'on a consommé ou ce qu'on consomme en ce moment?
Alors, Linky peut proposer en effet ce type d'affichage, mais le problème, c'est que le compteur, les gens peuvent le vérifier chez eux. Le compteur, généralement, il n'est pas sur le lieu de vie, il n'est pas sur l'endroit où on consomme le plus d'appareils électriques. Il est souvent caché dans un placard, voire il n'est même pas dans le domicile. Donc, autant vous dire que si ces informations sont affichées sur le compteur Linky, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont pouvoir effectivement l'avoir sous les yeux, parce que la vertu qu'on prête au compteur Linky, c'est bien une vertu pédagogique, c'est-à-dire que vous pourrez constater votre consommation d'énergie, vous pourrez voir des pics d'énergie, et à ce moment-là, vous pourrez vous dire peut-être qu'il est temps d'éteindre un appareil et de privilégier un autre type de...
Mais ce compteur, il ne sait pas renvoyer ma consommation via Internet, de manière à ce que je puisse la consulter de chez moi?
Alors si, maintenant il y a un engagement pour que effectivement vous puissiez avoir accès à ce type d'informations par Internet. Mais pour ça, il faut déjà disposer d'une connexion Internet. C'est pas le cas forcément de tous les Français. Et puis quand vous êtes en train de consommer, vous n'êtes pas en train de regarder sur Internet où en est votre consommation. Donc l'affichage en temps réel, et ça, il n'y a pas que l'UFC Que Choisir qui le souligne. Hein, l'ADEME, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie, l'a également souligné. L'important, c'est sur son lieu de vie d'avoir effectivement un affichage très pédagogique de sa consommation pour prendre conscience, ce qui n'est pas toujours le cas, pour qu'on puisse prendre conscience qu'à des moments donnés, on a des appareils qui consomment beaucoup, beaucoup d'énergie.
Et si je comprends bien,
on pourra modifier ses choix. Oui,
vous auriez préféré un compteur qui comprenne un petit écran qu'on puisse mettre dans sa cuisine et qui nous permettrait de savoir en permanence où on en est?
Exactement. On appelle ça un afficheur déporté. Il y a des solutions qui peuvent exister, mais malheureusement, il y a une phase d'expérimentation qui a eu lieu, mais on a balayé d'un revers de la main toutes ces solutions et on ne l'a pas du tout testé. Ça veut dire qu'on décide aujourd'hui de déployer à grande échelle des compteurs électriques pour une somme extrêmement importante, extrêmement élevée.
4 milliards.
Vous avez parlé de 4 milliards, mais certains parlent de 9 milliards. Donc on développe ce type de solution, mais on n'a pas cherché à savoir si effectivement il y avait une incidence sur la maîtrise de sa consommation énergétique. Et je vous rappelle que c'était l'objectif numéro un qui était assigné quand même à ces compteurs communicants ou intelligents, comme vous disiez.
Merci Grégory Carré de Que choisir, on comprend mieux. Il est 24. Bonsoir Serge Julie.
Bonsoir Christophe.
Le président Sarkozy était hier dans une usine soutenue par le Grand Emprunt et il a dit cette phrase qui a déjà beaucoup fait gloser depuis hier, que son rôle était d'abord de penser aux ouvriers et aux salariés plutôt qu'aux emplois de la fonction publique. Vous y avez vu une indication de sa stratégie électorale ?
Oui, il faut dire que ce propos public était chargé. Nicolas Sarkozy devait le même jour commenter les manifestations des enseignants, la perte du Sénat et le blues de l'UMP. Alors, pour le président Sarkozy, apparemment, c'est reparti comme en 40, c'est-à-dire comme en 2007. Il ne cherche pas à rassembler, comme on pouvait le supposer, comme le fit par exemple Mitterrand en 1988, mais encore une fois, il cherche à cliver, en revendiquant sa droite, toujours décomplexée, avec moins d'État, donc moins de dépenses, moins de fonctionnaires, et en principe, moins d'impôts. Et toujours hier, on a vu la droite populaire, un courant de l'UMP, très droite extrême, annoncer qu'elle se transformait en mouvement concurrent du Front National, et elle a rendu publique 80 mesures qui jouent évidemment avec l'immigration et l'insécurité. Alors, cette succursale de l'UMP est une nouveauté politique. Mais le postulat de 2007 reste en vigueur. Le premier tour se gagne au peuple, c'est-à-dire en divisant le peuple sous la houlette d'un chef qui se veut charismatique. La crise aidant, Nicolas Sarkozy considère en effet que la réaction populiste n'a fait qu'amplifier chez nos compatriotes.
Ce choix risque de susciter dans son électorat des réactions hostiles ?
Oui, l'UMP n'est plus ce qu'elle était il y a 5 ans. Le parti unique de la droite est en train d'éclater, rongé qui plus est par le doute. Et plus la droite populaire se radicalise, plus le centre-droit rêve à son émancipation. C'est la chance des candidats centristes, mais aussi sans doute celle des socialistes. Comme en témoignent toutes les défaites électorales sur plan local depuis 4 ans, et cerise sur le gâteau, la prise du Sénat, la droite est en train de perdre au fil du temps des pans entiers des classes moyennes devenues frondeuses à son égard. Avec sa stratégie populiste, le sol risque à plusieurs reprises de se dérober sous les pas de Nicolas Sarkozy. Par exemple, la crise de la dette. Le chef de l'État va se priver de revendiquer d'éventuelles réussites avec par exemple l'adoption de solutions fédérales européennes pour sortir de la crise, parce qu'elles seront jugées cauchemardesques par son électorat à droite toute. La répétition de 2007 en 2012, comme toutes les répétitions, risque de virer à la farce.
Votre carnet de notes, deux bonnets d'âne pour notre pays.
Oui, la première, c'est l'OCDE qu'il décerne à la scolarisation en France des 15-19 ans, qui est tombée en 15 ans, de 89% à 84%, alors qu'elle augmentait dans tous les pays développés. Deuxième bonnet d'âne, décerné par la Business Software Alliance, la France, en 3 ans, a décroché dans l'économie numérique. Elle est aujourd'hui très loin, au 21 rang mondial, et bing !
Merci, Serge Julie. Anne Mansouret dans un instant, la mère de Tristan Bannon qui est l'invitée d'RTL Soir.
RTL Soir.
Avec Christophe Ondelat.
RTL Soir jusqu'à 20h.
Christophe Ondelat.
Et vous allez nous rappeler les principaux titres, Christelle Robillard.
Un budget serré pour 2012. Il prévoit de ramener le déficit public à 4,5% du PIB, puis à 3% en 2013, après l'élection présidentielle. Mais il table sur une croissance de 1,75%, ce qui est une hypothèse optimiste. Un procureur chez le juge, Philippe Courroy, le procureur du deuxième parquet de France, celui de Nanterre, pourrait être mis en examen. Le secret des sources d'un journaliste du Monde a été violé dans l'affaire Bettencourt. L'incendie dans un immeuble squatté à Pantin a fait 6 morts et 4 blessés. Les victimes sont des immigrés tunisiens et égyptiens illégaux. Le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, a dénoncé des filières criminelles de l'immigration irrégulière. Football, l'OM reçoit tout à l'heure les champions allemands du Borussia Dortmund en Ligue des Champions. On refait le match sur RTL à partir de 20h. La météo, Louis Baudin, elle n'est pas très difficile à faire en ce moment.
Non, c'est vrai, mais bon, ça me rattrape de l'été, hein, où c'était souvent un peu compliqué. C'est vrai que pour l'instant, c'est simple, avec un temps sec et ensoleillé partout, quelques brouillards le matin du côté de l'Aquitaine ou encore dans le nord-est, vite disparus, et des températures toujours estivales. Pas moins de 26 à 31 degrés l'après-midi, quelle que soit la région.
Et voici notre zapper. 13h42, les auditeurs ont la parole. François Hollande annonce que s'il est élu président en 2012, il augmentera les prélèvements financiers. Jean-Marc a du mal à digérer cette annonce.
Qui dit gauche, normalement, doit dire plus côté ouvrier, ne sait pas comment on vit. Car ce monsieur, s'il serait comment on vit, il saurait déjà que nous ne vivons plus de nos salaires. Il aurait peut-être été plus judicieux, vous savez, là, on a parlé du Sénat. Hein, le Sénat est passé à gauche. Eh ben, divisons les salaires des sénateurs. Vous savez qu'un sénateur nous coûte 1 million d'euros par an, un sénateur. Vous savez que les sénateurs à la retraite touchent 41 000 euros. Et ce sont ces gens-là qui veulent nous diriger. Ça fait 30 ans qu'ils nous roulent.
13h20, Octobre Rose, c'est le nom de la nouvelle campagne incitant les femmes à faire un dépistage du cancer du sein. Laurence va en profiter tout de suite.
On est dans un pays où on a accès aux soins facilement encore et où on a du dépistage, ce qui n'est pas le cas partout. Moi, je ne vis pas avec la peur au ventre, hein. Je mène une vie tout à fait normale, je ne pense pas à ça tous les jours. Mais je vais à ce rendez-vous et j'encourage vraiment toutes les femmes qui nous écoutent à le faire. Laissons les peurs, les angoisses, la pudeur. Je sais que c'est pas un moment très très agréable, bien que ce ne soit pas franchement douloureux, mais bon, on n'aime pas trop ça. Mais il faut y aller, c'est capital pour nous tous. Voilà.
8h08 à Sedan, dans les Ardennes, un homme a tué en 10 ans deux de ses femmes. Et après chaque meurtre, il est allé se confier à un voisin qui témoigne aujourd'hui.
Ben voilà, j'ai tué ma femme. Ah ben je dis bravo. Hein, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait? Si on appelle la police. Ah oh, oui, puis alors d'un temps tout penaud. Oh.
Donc là, on est en 2002.
On est en 2002. Et hier matin, j'étais en train de finir de prendre mon petit déjeuner. Quand ça a sonné, mais je vais voir. Alors, le même voisin. Ah, il me dit, je vais tuer ma femme. Oh, mais c'est pas possible. J'ai failli lui dire encore.
RTL Soir. Avec Christophe Ondelat jusqu'à 20h sur RTL.
Anne Mansouret, vous êtes donc la mère de Tristan Bannon et on vous reçoit bien sûr ce soir dans un contexte particulier puisque demain, votre fille sera confrontée dans les locaux de la police judiciaire à Dominique Strauss-Kahn qu'elle accuse d'avoir tenté de la violer. Il y a 8 ans, en 2003, et tout le monde sait aujourd'hui que si elle n'a pas porté plainte à l'époque, c'est entre autres parce que vous lui avez conseillé de ne pas le faire. Il y a quelque chose dont il faut qu'on parle tout de suite, Madame Mansouret, puisque désormais, malheureusement pour vous, vos affaires de famille sont sur la place publique. Qu'est-ce qui se passe vraiment entre vous et votre fille? À longueur d'interview, elle vous reproche des tas de choses de manière elliptique, sans entrer dans les détails, ce qui fait que nous ne comprenons pas. Elle semble avoir un compte assez lourd à régler avec vous. Est-ce que vous pourriez expliquer de quoi il s'agit avec vos mots, et je vous laisse l'opportunité de les choisir car moi je n'ai pas la réponse.
Bon, écoutez, ma fille et moi, nous n'avons pas du tout la même sensibilité. C'est-à-dire qu'en fait, si ça n'était pas ma fille, je ne l'aurais pas choisie pour amie et vice-versa. Cela dit, on a ensemble toute une affection, toute une tendresse qui prend le pas bien sûr sur ces divergences. Elle me reproche en gros d'être quelqu'un de trop pragmatique, de trop dur, qui voit les choses toujours d'une façon positive et non pas avec l'émotion et les tripes. Voilà. Et moi, sans rien lui reprocher, je constate que c'est une artiste avec une sensibilité exacerbée. Elle écrit bien, elle dessine admirablement, elle joue de la guitare. Enfin, on est sur deux planètes en termes de sensibilité qui ne sont pas comparables.
Mais pour qu'on comprenne bien, vous parlez par exemple
en
ce moment?
Ah, mais oui, absolument.
Tous les jours.
Non seulement on se parle, mais enfin on échange, je ne sais pas moi, des dizaines d'émoticônes et autres. Et autres petits smileys. Donc non, ça, il n'y a absolument aucun problème sur le plan, je dirais, affectif. Mais on n'a pas la même analyse
de la vie
et des situations. Par exemple, vous faisiez référence au conseil que je lui ai donné il y a 8 ans. C'est un conseil que je lui redonnerai aujourd'hui.
Pragmatique,
qui est fondé sur le fait que quand on voit la totalité des plaintes qui sont déposées pour crimes sexuels ou pour agressions sexuelles, on s'aperçoit que bon, il y a beaucoup à perdre et absolument pas grand-chose à gagner.
La manière dont vous vous êtes investi depuis la mi-juillet dans sa défense, à ses côtés, suggère que vous essayez un peu de lui dire, de vous rattraper, de lui dire « je t'aime ». Vrai ou faux ?
Oh, c'est une façon peut-être sentimentale de voir les choses, mais la réalité, c'est que je suis passée à côté de son enfance, je suis, semble-t-il, passée à côté de son adolescence. Maintenant qu'elle est une adulte, je ne voudrais pas passer à côté une troisième fois.
Donc ça n'est pas faux. Elle se fait appeler Tristan Bannon, mais oui. Ça n'est ni son nom ni son prénom, n'est-ce pas ?
Si, c'est son nom de famille. Oui,
c'est
absolument.
Son nom de famille, mais elle ne s'appelle pas Tristan.
Elle ne s'appelle pas Tristan.
Ça suggère quelque chose qui est changé de prénom.
C'est son troisième prénom.
Elle s'appelle Marie-Claire.
Non, Anne-Caroline.
Anne-Caroline, ah bon.
Anne-Caroline. Elle s'appelle Anne-Caroline, Tristan, Chantal même, je crois qu'elle a un quatrième prénom. Et elle a choisi Tristan parce que quand elle a commencé à exercer dans le journalisme, elle trouvait qu'un prénom double, ça ne faisait pas les choses comme il fallait.
Alors si on en vient à ce dossier, moi j'ai noté que la semaine dernière, elle a dit qu'il y a beaucoup plus de choses dans le dossier que le disent les journalistes actuellement contre Dominique Strauss-Kahn. Qu'est-ce qui, selon vous, et d'après ce que vous pouvez dire ce soir, pourrait éventuellement amener le procureur à ouvrir une information judiciaire, c'est-à-dire à poursuivre l'enquête en vue d'amener DSK devant un tribunal probablement correctionnel, mais possiblement une cour d'assises.
Si vous voulez, le problème, c'est que depuis le début de l'affaire Diallo, en fait, qui a mis Dominique Strauss-Kahn devant ses responsabilités au niveau de son rapport avec les femmes, si on peut appeler ça comme ça, il n'arrête pas de mentir. Si j'étais à la place d'un procureur de la République, je me dirais qu'un monsieur qui accumule les mensonges, quand bien même il se prétend innocent, il y a quelque chose d'un petit peu suspect.
Mensonge, par exemple, quand il dit « il y a longtemps, je n'ai pas cherché à embrasser Tristan Bannon ».
Je ne l'ai même jamais vu. Je l'ai vu une seule fois dans mon bureau de l'Assemblée nationale.
Et qui dit aujourd'hui, oui, j'ai tenté de l'embrasser.
Après, il dit, j'ai tenté de l'embrasser. Bon,
moi, mais il y a quelque chose de plus que ça ?
Moi, je trouve ça assez incongru qu'un monsieur qui avait à l'époque déjà une soixantaine d'années donne rendez-vous à une journaliste dans l'exercice d'une interview dans une garçonnière pour lui faire finalement un banal flirt que l'on peut faire dans une voiture ou même dans un café. Donc je trouve que la mise en œuvre d'un certain nombre de moyens dénote de sa part une claire préméditation et que cette claire préméditation, il n'a jamais, enfin, je ne l'ai jamais entendu l'assumer, même quand je l'ai eu en face de moi, ce qui s'est produit quelques semaines après les faits. Il m'a dit qu'il avait perdu la tête, qu'il avait pété un câble, mais à aucun moment il ne m'a dit je voulais réellement la violer.
La suite dans un instant, Madame Montsouris.
RTL Soir avec Christophe Ondelat jusqu'à 20h sur RTL.
Anne Mansouret, je rappelle que vous êtes conseillère régionale socialiste de Haute-Normandie, vice-présidente du conseil régional et conseillère générale du département de l'Eure, et que vous êtes surtout la mère de Tristan Bannon qui accuse Dominique Strauss-Kahn de tentative de viol et qui sera donc confrontée à lui demain. On a parlé tout à l'heure des relations complexes que vous avez avec votre fille, qui semble-t-il a quelques reproches à vous faire. Est-ce que vous pouvez nous dire deux ou trois choses qu'on a un peu de mal à comprendre la concernant ? La première, c'est que on dit toujours, parce qu'on a toujours besoin de coller une fonction aux gens, Tristan Bannon, journaliste écrivain. Mais quand on regarde, elle a été journaliste pendant 3 mois et écrivain, elle a fait 2 romans qui n'ont pas non plus ou 3 romans, mais enfin qui n'ont pas été vendus à des centaines de milliers d'exemplaires, donc elle ne peut pas vivre de ça. Que fait-elle de sa vie ?
Elle fait comme beaucoup de journalistes et beaucoup de on va dire d'écrivains, mais enfin c'est un terme qui me paraît quand même assez impropre. Elle fait des ménages. Elle a animé des conventions. Elle a animé des débats en province. Elle fait des piges. Mmh. Voilà, elle se débrouille. Et puis je l'ai toujours aidée.
Elle était récemment à la télé sur Canal+, et moi j'ai ressenti une petite gêne quand même dans cette interview, je crois que j'ai pas été le seul, et elle a dit que c'était à chaque fois qu'elle intervenait le même problème. Elle est en décalage par rapport au sujet, c'est-à-dire que son visage sourit, son visage rigole, et elle ne renvoie pas l'image d'une souffrance.
Bah écoutez, c'est compliqué parce que d'un côté, vous me donnez cette appréciation. De l'autre côté, ils ont fait une marionnette où on l'appelle Tristoun et où elle n'arrête pas de pleurer. Donc, il faut croire que chacun reçoit sa personnalité de façon différente. Ça n'est pas quelqu'un de gai, Tristan, du tout, du tout, du tout. C'est quelqu'un de très nerveux, de très sensible, d'un peu mélancolique. C'est quelqu'un de très tendu qui a eu une enfance difficile, qui n'a jamais été vraiment très épanoui. Moi, je ne l'ai jamais vraiment connu épanoui.
Qui a confirmé, à votre connaissance là encore, que véritablement en 2003, elle avait fait état de gestes plus que déplacés et d'une tentative de viol de la part de Dominique Strauss-Kahn? Est-ce que tous les gens dont elle a dit, je leur avais dit à l'époque, devant les policiers, ont confirmé?
Pratiquement tous.
François Hollande l'a fait.
François Hollande a dit qu'il était effectivement au courant, mais qu'il ne pensait pas qu'il s'agissait de quelque chose d'aussi grave. Voilà. Je ne sais pas que ses amis, entre guillemets, journalistes, je ne pourrais pas vous dire parce que je ne leur en ai pas du tout parlé. Je sais aussi qu'Aurélie Filippetti, par exemple, ne pouvait pas nier quoi que ce soit.
Donc députée socialiste.
Députée socialiste. Elle ne risquait pas de nier quoi que ce soit puisque là, il y avait des preuves matérielles puisque des échanges de mails échangés entre elle et moi.
À l'époque, vous les avez conservés?
Absolument, je les ai conservés. Je ne les ai pas conservés dans une mauvaise intention. Je les ai conservés parce que je suis quelqu'un d'extrêmement prudent et que je me suis dit que c'était... On ne savait jamais. Ça pouvait toujours servir un jour ou l'autre.
Bon, pour se parler vrai, Anne Mansouret, vous savez qu'une plainte de cette nature, 8 ans après, n'a que très peu de chances de prospérer. Il est probable que le procureur va constater l'absence de preuves. Comment est-ce qu'elle peut réagir si ça se passe comme ça? Bon, elle a dit qu'elle se porterait partie civile, mais ça n'exclut pas non plus qu'au bout de la constitution de partie civile, le juge d'instruction décrète en non-lieu. Comment est-ce qu'elle peut réagir?
Alors, là, je voudrais vous dire quelque chose qui me scandalise depuis le début de cette affaire. On a aussi peu de chances de faire reconnaître une tentative de viol ou un viol 8 jours après, 8 heures après,
8 ans après.
C'est exactement identique. Alors, c'est parole contre parole. Il est toujours loisible au monsieur, en l'occurrence, de dire « elle m'a aguiché, je lui ai donné rendez-vous et au dernier moment, elle a voulu m'emmerder, elle n'a pas voulu passer à la casserole ». Bon, tout est toujours possible dans ce registre-là. Je dois dire aussi qu'il y a des dommages collatéraux dont peu de gens prennent conscience. Moi, j'ai un père qui a 97 ans, qui vit tout ça très mal. Il y a, parmi les victimes de Dominique Strauss-Kahn, et je le sais, des femmes qui, pour des raisons personnelles, parce qu'elles ont refait leur vie, parce qu'elles ont des enfants en bas âge. Vous savez, c'est pas facile d'avoir un enfant qui rentre de l'école en disant « Maman, c'est vrai que tu t'es fait violer par Monsieur Strauss-Kahn. » Mmh. Donc, il y a quelque chose qui est extrêmement lourd dans ce genre d'affaires. Et je trouve qu'il conviendrait maintenant de faire des aménagements à cette loi, non seulement sur la durée de la prescription, mais surtout sur le point de départ de la durée de prescription. Je trouve ça anormal, d'un point de vue purement juridique, que ça se passe au moment des faits et non pas au moment de la révélation des faits. Parce que très souvent, il s'agit de très jeunes femmes, voire d'adolescentes, et quand il s'agit en plus de problèmes d'inceste, on a beaucoup de mal, moi je sais que j'ai eu à connaître ce genre de cas, on a beaucoup de mal à faire parler les jeunes avant d'avoir atteint un certain degré de maturité.
Quand tout ça sera fini, Madame Mansouret, vous aurez envie de vous planquer ou ça vous a redonné de la force pour continuer en politique?
Bah écoutez, il y a un domaine que je n'avais, pour ainsi dire, jamais abordé en politique, c'est ce qu'on appelle, de façon générique, le féminisme. J'étais pas féministe.
Vous l'êtes plus?
Je le suis de plus en plus, parce que je trouve qu'il y a vraiment une anomalie dans notre pays à ce niveau-là.
Merci Anne Mansouret d'avoir passé ces quelques minutes avec nous ce soir. Laurent Gérard dans un instant. Il est -10 et voici Laurent Gérard.
À cette primaire, je compte sur vous. Aujourd'hui, plus exactement ce soir... C'est le grand jour pour les radicaux, le grand jour pour les fumeurs de cannabis. Et surtout, nous comptons rassembler le plus de monde possible et d'univers différents. Tous les radicaux, les radicaux verts, les radicaux rouges, les radicaux extra fins, les radicaux en boîte, les radicaux co, les radicaux libres, les radicaux de mouton, et ceux qui vont tout faire péter, les radicaux secs.
Alors que Dominique Strauss-Kahn doit rentrer demain pour être confronté à Tristan Bannon, Jean-Michel Apathy a tenté de le joindre par téléphone dans son riad marocain.
Allô, j'écoute.
Bonjour monsieur, Jean-Michel Apathy, RTL. Pourrais-je parler à Dominique Strauss-Kahn, je vous prie?
T'es patiente, moi, Zimé. Je vais te chercher mon maître. Il est très occupé au hammam avec les mademoiselles. Monsieur Strauss-Kahn, c'est pour vous. Un appel des RTL.
Allô, j'écoute. Dominique Strauss-Kahn, bonjour. Vous rentrez demain de votre riad de Marrakech pour être confronté à votre accusatrice Tristan Bannon. Comment vous préparez-vous à cette entrevue?
Écoutez, Jean-Michel Apathy. Pendant mon séjour marocain, j'ai réfléchi. Dans un premier temps, j'ai fait vœu d'abstinence, fini la légèreté. Allez, bouge ton corps, toi, vas-y, bouge ton corps. Mais vous mentez comme un arracheur de dents. J'entends de la musique orientale et j'imagine des danseuses lascives en train de se trémousser et tortiller du postérieur. Oui, c'est vrai, je dois bien vous l'avouer. Ces danseuses du ventre, ces massages à huile d'argan, ces bains collectifs au lait d'ânesse, c'est plus qu'une faiblesse. C'est une faute. Une faute morale dont je ne suis pas fier. Mais c'est aberrant, vous retombez dans vos turpitudes. Si, si, je vous assure, je suis complètement guéri. Excusez-moi, deux petites minutes. Allez, vas-y, Aïcha. Allez. Bouge ton corps, tourne-toi. Oh oui, ton corps est une liane. Tiens, 500 dirhams de plus dans ton soutif, allez. Allez, 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 tiens. 500 de plus dans ta culotte à paillettes. Mmh. Mmh. C'est chaud, c'est chaud. Mais j'ai comme l'impression de vous déranger dans votre réflexion et votre reconstruction, Dominique Strauss-Kahn. Pas du tout. Je suis en train d'organiser mes primaires à moi. Là, j'ai 6 candidates et je vais peut-être toutes les garder. Allez, allez, allez. Mmh. C'est chaud. I want to fuck.
Élection sénatoriale, primaire socialiste, future présidentielle. Décidément, la tension monte et à l'Élysée, Nicolas Sarkozy affine sa stratégie.
Un toc-toc aussi martial, à tous les coups, c'est Juppé. Hein. Décidément, jamais tranquille pour feuilleter le catalogue prénatal. Hein. Entrez, salut les Gwen. Bon, ben, quand je suis tout seul, tu peux te dispenser du mot de passe. Dis donc, c'est quoi ces rites de contrariété qui plissent ton crâne d'œuf? Nicolas, sur le front du Sénat, la situation est critique. Nos troupes ont le moral dans les chaussettes. Les socialistes, majoritaires au palais du Luxembourg, c'est aussi grave que la prise du palais d'hiver en 1917 par les bolcheviks. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Tout ça, c'est du clapotis électoral avec des morceaux de cumul de mandats dedans. Négatif, Nicolas. François Hollande et la même tape dure sont regonflés à bloc. Ils se voient déjà à l'Élysée. Mais Alain, les présidentiels... Chez les socialistes, c'est comme le jeu de loi. Pour arriver à la case Élysée, il faut d'abord passer par la case primaire. Tu me suis? Pardon, là, je capte pas du tout. Alors, je te croyais plus fort que ça en stratégie. C'est simple. Hollande ou la mère Tapdur ne gagneront pas les primaires. Et tu veux savoir pourquoi ils ne gagneront pas les primaires? Hein? Eh bien, je vais te le dire. Parce que c'est Jean-Michel Bellay qui va arriver en tête. Négatif. Bellay est sympatoche avec ses histoires de cannabis, mais il a le charisme d'un fromage des Pyrénées. Oui, mais j'ai un plan. Tous les militants et les sympathisants UMP vont aller voter aux primaires pour Jean-Michel Bellay. Comme ça, il sera désigné candidat du PS au présidentiel et dès le premier tour, ben, je suis sûr de le ratatiner. Négatif, vous oubliez que tout citoyen désirant voter aux primaires devra signer une charte des valeurs de gauche. Et alors bon, tout le monde est de gauche en France, hein, d'une manière ou d'une autre, en cherchant bien, hein. Même à l'UNP, on est de droite, mais on est aussi un peu de gauche. Nous aussi, on veut que tout le monde y soit heureux et égal. C'est comme à RTL. Sans votre respect, Nicolas, je ne vois pas le rapport. À RTL, c'est tous des gauchistes. Serge Julie, Nicolas Demorand, Eric Nolot, Didier Porte, André Torrent, Laurent Geoffrin, Vincent Perrault, Flavie Flamand, Louis Baudin. Tous d'ultra-gauche. Si, si, je te dis, tous d'ultra-gauche. Sauf ton respect, il y a quand même Alain Duhamel qui n'est pas de gauche. Il est même d'une neutralité exemplaire. La preuve, aux dernières présidentielles, il a dit qu'il allait voter Bayrou.
Mais non, Bayrou aussi, il est de gauche. Enfin, je veux dire, il est gauche. Enfin, maladroite. Bon, alors maintenant que je t'ai expliqué mon plan secret, hein, voilà, aller voter Bayrou, il faut que je te laisse. Et parle-en autour de toi. Moi, j'ai déjà mon faux collier de barbe et mon col roulé pour aller voter déguisé. Et toi, t'as qu'à te foutre une perruque hippie sur ton crâne en peau de fesse, une feuille de cannabis, et tu vas voter Bayley. Hein ? Allez, on va tous voter Bayley. Ah, je la sens bien, cette élection.
Merci Laurent Gérard, c'est Rodolphe Bosselu, maître Rodolphe Bosselu, avocat, qui tient ce soir le micro des langues de vipère. Il a été choisi par vous hier soir. Bonsoir Rodolphe.
Bonsoir Christophe.
Et ce soir, vous voulez nous montrer comment la mode peut voler au secours des hommes politiques.
En effet, les trous d'air s'amoncellent pour le pouvoir en place. Karachi, Gobert, Hortefeux, Bazir. Le dernier en date, l'interview de la comptable de Madame Bettencourt dans Libération du jour, faisant état en 2007 de remise d'espèces par Monsieur de Maistre à Eric Woerth, qui était alors le trésorier de la campagne de Nicolas Sarkozy. À les supposer établis, ces faits consacreraient du trafic d'influence, du financement illicite de campagne électorale. Comment en sortir ? Eh bien, peut-être en prenant des éléments de langage à une certaine Karine Roitfeld qu'il va falloir appeler au secours. Karine Roitfeld, c'est la mythique rédactrice en chef de Vogue Paris et elle est également styliste. Interrogée sur la déontologie d'un patron de presse de mode avec les marques, qui sont tout à la fois des clients comme annonceurs et des sujets d'articles, Karine Roitfeld a eu ce mot que nous pouvons qualifier d'historique. Il y a une très fine limite entre accepter des cadeaux et être acheté. Diable, diable, voyons si cela fonctionne avec les affaires en cours. Est-ce que recevoir 50 000 euros, c'est incontestablement recevoir un cadeau? Mais est-ce que pour autant, c'est être ou se sentir acheté? Il est certain que si l'on s'en tient aux déclarations de Robert Bourgis sur les mallettes africaines et les montants astronomiques, on aurait tendance à considérer que 50 000 euros, c'est de la roupie de Sansonnet. Et que, chemin faisant, le pouvoir politique s'assagit en faisant d'ailleurs sienne l'autre déclaration de l'ineffable Karine Roitfeld, j'ouvre les guillemets, « Tu dois avoir des avantages, mais savoir fixer les limites. Tout est fonction d'équilibre. » Je referme les guillemets, « sic ». Pas sûr que cet équilibre pour les politiques tienne jusqu'au présidentiel.
Merci Rodolphe Bosselu, langue de vipère hier soir. On refait le monde, 7h15, vous le savez. Et pour la météo, vous savez aussi qu'il va faire beau demain, après-demain et les jours qui viennent. Bon, demain d'abord, Louis Baudin.
Oui, bah oui, effectivement, il fera encore très beau demain. Du soleil partout, quelques petits brouillards le matin, vite dissipés. On n'aura vraiment pas beaucoup du côté de la vallée de la Garonne, notamment sur l'Aquitaine, ou encore dans l'extrême nord-est. Et avec ce soleil, des températures toujours aussi élevées, avec 12 à 16 degrés le matin partout, et puis 26 à 31 à l'après-midi, 27 à Lille, 28 à Paris, 29 à Marseille, ou encore 30 degrés à Bordeaux.
Alors après, ça se passe comment ?
Ça continue.
Jusqu'à quand ? Parce qu'hier, vous disiez lundi.
Voilà, je continue jusqu'à lundi inclus. Et après, il y a peut-être du changement. Hein. Visiblement, l'anticyclone va bouger un petit peu. Donc peut-être une dégradation entre mardi et surtout mercredi prochain. Je vous en reparle demain. Hein. Ça, c'est après le week-end.
On se reparle quoi qu'il en soit à 7h15. Merci, Louis.